Collective, l'émission qui explore les questions féministes, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Les hommes, ils sont en mode, ils sifflent la fin de la récré. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les femmes, elles s'en foutent de la fin de la récré, elles sont en train de bordéliser tous les cours. Ils peuvent continuer à siffler la récré, ça va être violent, il va y avoir des moments difficiles, mais ça changera pas grand-chose.
Bonjour. Force est de constater que l'émission précédente n'a pas fait plier le gouvernement, mais ne perdons pas espoir. Aujourd'hui, nous avons invité Maria au micro de la collective. Bonjour Maria.
Bonjour.
Tu es conseillère conjugale et familiale au planning familial Sud-Ardèche, et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler de violences gynécologiques.
Un peu avant le 8 mars cette année, un témoignage intitulé « La vie de mon utérus » nous a été adressé. Dans ce texte, une personne de notre entourage raconte une série de consultations et opérations auprès de gynécologues exerçant autour de Benin. Règles douloureuses pas prises au sérieux, examen gynéco bourrin, non-respect de sa volonté, rien de spectaculaire peut-être, mais une série de violences qui viennent s'ajouter les unes aux autres.
En parlant de ce témoignage entre nous, nous nous sommes rapidement aperçus que nous avions toutes, ou presque, des histoires à partager. Des simples remarques déplacées jusqu'à des violences qui marquent les corps et les esprits pour longtemps. La vie de mon utérus n'était donc pas un récit isolé, mais bien le reflet d'un système qui a pris l'habitude, aujourd'hui encore, de faire peu de cas de la parole des femmes et de leur corps. Témoigner, sortir de l'isolement, venir grossir les rangs de celles qui dénoncent l'injustice, peuvent être un premier pas pour se sentir mieux, mais aussi, espère-t-on, pour faire changer les choses. Nous avons donc choisi, pour ouvrir cette émission, de vous partager ce témoignage.
De 13 à 37 ans, aucun des généralistes ni gynéco consultés dans ma vie ne s'est jamais intéressé plus que ça à mes règles ultra douloureuses et ne m'a rien dit d'autre que de prendre des anti-inflammatoires et d'attendre que ça passe. Il a fallu attendre 37 ans pour qu'une sage-femme me prescrive enfin une échographie.
Je découvre avec stupeur en quoi consiste l'échographie. Une sonde qui ressemble globalement à un sextoy qu'on recouvre d'un préservatif enduit de lubrifiant et qu'on introduit dans le vagin. L'examen est effectué avec brutalité. Le médecin ne m'explique absolument rien. Je ressors du cabinet avec la sensation d'avoir été violée.
Comme beaucoup de femmes victimes de violences gynéco, j'arrête de me soigner et passe plusieurs années sans voir de médecin. Fin 2022, je me décide à consulter à l'hôpital d'Aubenas, toujours pour mes règles douloureuses. On décide de me retirer un polype utérin. Le gynéco me propose d'en profiter pour cautériser mon utérus, ce qui ferait que je n'aurais plus mes règles, ou au pire, des règles beaucoup moins douloureuses et abondantes.
Je n'ai pas d'enfant, mais n'en veux pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et déjà 41 ans. Je suis euphorique à l'idée de cette opération, et pense même à organiser une fête pour la célébrer à mon retour chez moi.
Je me fais opérer, anesthésie générale et 3 incisions dans le ventre pour retirer le polype. Mais à mon retour chez moi, je découvre que, contrairement à ce qui avait été convenu avec le médecin, mon utérus n'est pas cautérisé. Je vais continuer à avoir mes règles. Le gynécologue a décidé, sur conseil de ses collègues, de ne pas faire cette opération car, autant, dans 3 ans, j'allais vouloir des enfants.
Je me sens infantilisée, humiliée et sale, comme si mon corps ne m'appartenait pas. L'hôpital me propose un nouveau rendez-vous. Un gynéco que je n'avais encore jamais vu me dit que cette opération n'est pas ce qu'il me faut et essaye de me convaincre que ce qu'il me faut, c'est un stérilet aux hormones.
Il me fait une échographie endovaginale, l'examen qui m'avait traumatisée il y a 5 ans. Alors que je pleure, dit que je n'ai pas envie de me déshabiller et ne vois aucune raison de faire cet examen. Je rentre chez moi vidée et à bout.
Je suis blanche, hétéro, valide, cis. J'ai fait des études, je parle français. J'ai réfléchi au féminisme et fait des cours d'autodéfense. Je suis dans une situation sans doute plutôt privilégiée et épargnée par un certain nombre de mécanismes de domination. Je n'ose pas imaginer les difficultés qui peuvent se cumuler quand il existe d'autres difficultés.
Thank you.
C'est un témoignage difficile à écouter et malheureusement pas un cas isolé. Faisons le point avec Maria. Alors Maria, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le planning familial ?
Oui, alors le planning familial, c'est un mouvement militant d'information, de sensibilisation et d'écoute sur les questions de vie affective, sexuelle et relationnelle. C'est une association qui agit autour de l'accès aux droits, historiquement, notamment sur les questions d'avortement et de contraception. Aujourd'hui, le planning familial œuvre dans le champ du droit à l'accès à la santé sexuelle et reproductive et se bat contre toute forme de discrimination.
Au sein du planning, vous êtes donc amené à accompagner des personnes qui ont pu être victimes de violences gynécologiques. Avant d'aller plus loin, il nous semble important de définir précisément ce qu'est une violence gynéco. Quelle est la définition avec laquelle vous travaillez au planning ?
Alors concrètement, ce sont des gestes, propos, pratiques et comportements exercés ou omis par quelqu'un du corps médical sur un ou une patiente et qui portent atteinte à sa dignité. Je fais une petite précision dès maintenant, c'est que je vais parler de patientes et patients en consultation gynécologique, parce qu'en fait, il n'y a pas que des femmes qui sont concernées, mais aussi des personnes trans, non-binaires ou encore intersexes. Parmi les violences gynécologiques, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de violences obstétricales, qui sont relatives à la grossesse et à l'accouchement. Donc parmi elles, par exemple, il y a l'injection d'hormones lors de l'accouchement, sans le consentement de la personne, ou encore l'épisiotomie systématique, ou la pratique du point du mari lors de la suture. Le point du mari, c'est le fait de resserrer par des points de suture supplémentaires l'entrée vaginale pour que les futurs partenaires à pénis prennent soi-disant plus de plaisir lors de futurs rapports sexuels. Mais les violences gynécologiques, c'est bien plus large en fait que les violences obstétricales. C'est dans tout type de consultation médicale gynécologique de ne pas informer le ou la patiente de ce qu'il va se passer, de ne pas lui expliquer ce qui arrive, quelles sont les alternatives, pourquoi certains gestes sont pratiqués. C'est aussi ne pas prendre en compte la douleur ou la minimiser, que ce soit par exemple des douleurs de règles ou une douleur qui survient pendant un acte médical. Ou encore, ne pas demander le consentement de la personne avant un geste médical. Moi, dans mon travail, les témoignages de violences gynécologiques que j'entends le plus concernent les questions d'avortement et de contraception. Par exemple, il y a des personnes qui témoignent que pendant l'échographie de datation d'une grossesse, qui est nécessaire pour une IVG, on leur a imposé une échographie endovaginale. Donc c'est ce qui est décrit dans le témoignage qu'on a entendu, c'est avec une sonde qui est placée dans le vagin, alors que pour ce type d'échographie, on peut aussi faire une simple échographie pelvienne du bas du ventre. Ou encore, ça arrive qu'on impose à des personnes qui viennent pour une IVG l'image de l'échographie ou les sons des battements cardiaques.
Et à travers vos actions ou par les témoignages qui fleurissent depuis plusieurs années, est-ce que vous constatez des différences dans l'exposition à ces violences selon, je ne sais pas, le milieu social, l'identité sexuelle ou de genre, si les personnes sont racisées ou non, etc.
En fait, toute personne qui se rend à une consultation gynécologique, elle risque potentiellement des violences gynécologiques. D'autant plus que le corps médical, il est placé dans une posture d'autorité et de sachant. Et c'est cette autorité médicale qui fait que bien souvent, on peut se sentir démuni ou dépossédé de nos choix. Et ça peut nous intimider et rendre plus difficile, par exemple, le fait de poser des questions à son médecin. Quand on va chez le médecin, on a envie de parfois régler un problème, de parler de quelque chose qui nous préoccupe, ou alors on a besoin de réponse de la part d'un professionnel. Et tout ça, ça peut rendre difficile le fait de poser ses limites, de dire qu'on n'est pas d'accord ou de partir. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dur de partir d'une consultation quand on habite dans un désert médical comme l'Ardèche et qu'on a peu d'autres soignants à aller voir. Mais ensuite, en plus de ça, oui, il y a des facteurs qui exposent plus à ces violences. Et en fait, comme toute la société, le corps médical, il comprend des personnes racistes, transphobes, grossophobes, validistes, classistes, agistes, homophobes. Alors quand on est concerné par une ou plusieurs de ces discriminations, on peut s'y retrouver confronté pendant une consultation. Et puis la formation même des médecins, elle est empreinte de ces discriminations, ce qui fait que parfois les médecins sont mal informés. Par exemple, ils ne savent pas toujours comment adapter un moyen de contraception au poids d'une personne, ou encore quel dépistage ou quel moyen de protection des IST est pertinent pour une personne qui n'a pas une sexualité hétéronormée. Ou encore, parfois les médecins ne savent pas comment accompagner une personne trans. Il peut aussi y avoir des présupposés, par exemple que les personnes grosses, âgées, avec un handicap, n'ont pas de sexualité, ou alors que les personnes pauvres ou racisées ne savent pas gérer leur contraception. L'expression de ces discriminations pendant une consultation gynécologique a la particularité d'intervenir à un moment où on peut être vulnérable et psychiquement et physiquement en raison de la position dans laquelle on est pour l'auscultation. Et en plus, ça touche aux parties intimes et au droit à la santé sexuelle et reproductive.
Merci Maria pour tes réponses. On écoute maintenant un extrait de La vie têtue où Juliette Rousseau s'adresse à sa sœur.
Quand j'avais 16 ans, parce que mes règles n'étaient toujours pas venues et que cela commençait à l'inquiéter, maman m'a emmenée chez une gynécologue, pour la première fois. Elle était grande, sèche, son corps n'affleurait nulle part sous sa blouse blanche. Lorsque je me suis assise face à elle, la médecin m'a regardée lentement des pieds à la tête. Ses yeux suivaient sans gêne les arrondis de mon corps, recroquevillés dans mes vêtements. D'un air un peu dégoûté, elle m'a dit « Relevez-vous, jeune fille, et montez sur cette balance. » Je me suis exécutée, déjà pleine de honte et de culpabilité. Quand l'aiguille s'est fixée sur mon poids, elle a hoché la tête d'un air entendu, puis m'a dit « Écoutez, c'est très simple, il faut que vous perdiez du poids. 10 kilos, c'est tout. Je vous donne un an, à partir de maintenant, fini les sodas, le fast-food, et vous verrez que d'ici un an, vous aurez vos règles. » J'aurais aimé lui dire que je n'allais pas au fast-food et que les sodas n'avaient jamais franchi le seuil de la maison. Mais au lieu de ça, je me suis tue et j'ai tenté de dissimuler ma honte. À la maison, je suis rentrée en larmes. Maman n'a pas su quoi me dire et mon père m'a rappelé qu'il me l'avait bien dit, lui. Des années qu'il me le disait d'ailleurs, chaque fois que je mangeais du pain beurre, un gâteau ou du chocolat. Continue comme ça et tu finiras grosse, ma fille. Et grosse, ça ne se fait pas. Il y avait déjà eu toi. Ça commençait à bien faire de ces filles qui ne savaient pas devenir des femmes acceptables. Ce n'était quand même pas compliqué de s'empêcher de manger. Personne n'a trouvé à redire au pronostic médical. Une femme grosse et qui n'a pas ses règles peut elle-même être encore considérée comme une femme.
Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est la violence de stéréotypes corporels et de genre qui viennent s'immiscer jusque dans le suivi médical. Dans son œuvre, Juliette Rousseau décrit notamment sa construction familiale et sociale en tant que femme dans un territoire rural qui est tantôt pourvoyeur de liberté, tantôt facteur de difficulté. En tout cas, la médecine à la campagne, c'est un sujet, une particularité quand on parle de suivi gynécologique. Maria, est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux de l'accès aux soins ici en Ardèche ?
Oui, alors le fait d'être en milieu rural, ça ajoute de la difficulté, parce que pour avoir une offre de soins plus large, il faut rejoindre les grandes villes qui sont plus loin. Du coup, tout le monde n'a pas le même accès à la mobilité, donc on voit des discriminations dans l'accès aux soins, de populations plus jeunes qui n'ont pas le permis ou pas de véhicule, et de populations précaires, parce que le déplacement a un coût en argent et en temps. En plus, quand on nous signale un soignant problématique, par exemple une personne qui commet des violences ou qui a des propos déplacés envers ses patients et patientes, on n'a pas toujours de soignants alternatifs à proposer sur le même territoire. Et enfin, il y a aussi certaines spécialités qui sont absentes du territoire et on est obligé d'aller loin pour consulter.
En direct, l'ordre de transmission, l'organisation du contrôle. Par la police, dans un but éducatif et dans l'esprit droite dans la seule patrie existant sur la terre. Patria, patriarca, 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 patria.
Pourquoi ignorer et violenter le corps des femmes? Liv Strömquist, l'autrice suédoise de la BD L'Origine du Monde, apporte une réponse très personnelle et éclairante sur le sujet. On écoute ça. Bonsoir. Vous êtes peut-être de ceux qui voient un problème dans le fait que dans notre culture, ce qu'on appelle les organes féminins sont dissimulés et stigmatisés par la honte. Qu'il soit mal vu d'en parler, que le sujet soit passé sous silence, balayé et considéré comme inopportun, et qu'il ne soit même pas nommé correctement. Vous accuserez sans doute notre société conditionnée par le patriarcat de cette dissimulation humiliante. Cependant, notre société est rongée par un problème bien plus grave. C'est un problème qui vient des hommes qui portent ou ont porté un intérêt trop vif à ce qu'on appelle le sexe féminin. Ces hommes si obsédés par ce fameux sexe féminin sont à l'origine d'énormes problèmes de société. Tel Christophe Colomb baptisant de son nom et de celui de ses potes les pays de tout un continent, ces hommes débordant d'énergie ont colonisé le corps de la femme jusque dans ses recoins les plus sombres et humides. Avoir un passe-temps, c'est bien sympa, mais plusieurs d'entre nous verraient bien ces obsédés de ce que l'on nomme les organes sexuels féminins faire preuve d'un peu moins de zèle et d'entrain. Compte tenu de l'histoire et de l'actualité, nous sommes nombreux à penser qu'une attitude un peu moins olé-olé vis-à-vis de ce qu'on appelle le sexe féminin aurait été fort à propos. Pour encourager ces messieurs à aller dans ce sens, j'ai le plaisir de vous présenter la liste complète de ces hommes qui se sont un peu trop intéressés à ce qu'on appelle les organes féminins. À la 7e place, nous retrouvons John Harvey Kellogg, 1852-1943. Vous croyez peut-être que le seul exploit de John Harvey Kellogg était l'invention des cornflakes ? Pas du tout ! John Harvey Kellogg avait plusieurs cordes à son arc. Le domaine de prédilection de ce médecin était le sexe féminin. Mieux encore, son objectif précis était d'empêcher les femmes de le toucher. Non seulement je suis médecin, mais j'ai aussi inventé les cornflakes. Et en plus, je ne rate pas une occasion d'empêcher les femmes de toucher leur sexe. Notre John Harvey Kellogg brûle du désir d'empêcher les femmes de toucher leur propre sexe, car à l'époque, l'anti-onanisme était très tendance dans la médecine. Kellogg rédige donc des manuels d'hygiène, dans lesquels il affirme que l'onanisme serait la cause du cancer de l'utérus, de l'épilepsie, de la folie, ainsi que de diverses déficiences mentales et physiques. Pourquoi j'ai le cancer ?
Surstimulation du clitoris.
Pourquoi je suis folle ?
Surstimulation du clitoris.
Pourquoi j'ai mal aux pieds ?
Surstimulation du clitoris.
Comme le monde est bien fait, c'est Kellogg lui-même qui a découvert le remède à la masturbation et ses dangers. Dans son ouvrage « Quelques vérités pour les jeunes et les vieux », il écrit
« Quant aux femmes, j'ai découvert que l'application d'acide phénique pur sur le clitoris constitue un remède excellent pour calmer toute excitation anormale. »
Alors si vous pensiez que le pire crime dont Kellogg fut la cause soit les films publicitaires de sa boîte, ces pubs où des anorexiques s'étirent au bord d'une piscine tout en essayant de nous faire avaler qu'un bol de flocons de maïs grisâtre, c'est la belle vie. Détrompez-vous, ou du moins ajoutez au portrait du fondateur de cette entreprise qu'il adorait verser de l'acide sur les clitoris. Ce qui nous amène au 6e sur notre liste des hommes qui ont porté un peu trop d'intérêt à ce qu'on appelle le sexe féminin, à savoir le docteur anglais Isaac Baker Brown. 1811-1873. Le docteur Baker Brown fut lui aussi un opposant farouche à l'onanisme féminin. Sa méthode pour empêcher les femmes de se masturber consistait carrément à procéder à une ablation du clitoris. La clitoridectomie était à l'époque une opération tout à fait courante, et un grand nombre de médecins la pratiquaient aussi en Suède.
le docteur Baker Brown entretenait une affection, si ce n'est une passion toute particulière envers la clitoridectomie, et il y voyait la solution à toutes sortes de problèmes. L'opération était pratiquée pour soigner par exemple l'hystérie, le mal de tête, la dépression, l'irritation spinale, la perte d'appétit et la désobéissance. En 1857, les femmes anglaises obtiennent le droit de divorcer. 5 d'entre elles exercent ce droit et se voient offrir une clitoridectomie à la Baker Brown en prime. Au milieu des années 1860, il s'avère que le docteur Baker Brown a plusieurs reprises à imposer l'opération à ses patientes sans leur en expliquer les conséquences. Il est finalement exclu de l'ordre des médecins. Le pire, d'après ses confrères, c'est que Baker Brown ait opéré des femmes mariées sans demander au mari leur accord préalable. La popularité de la clitoridectomie ne se dément pas avant la fin du 19e siècle. Et aux États-Unis, la dernière ablation médicale d'un clitoris a eu lieu en 1948. Il s'agissait d'empêcher une petite fille de 5 ans de se masturber. Je propose de passer sans tarder au numéro 5. À la 5e place, ne se trouve personne d'autre que Saint-Augustin, 354-430. Ce théologien chrétien qui vécut au IVe siècle fit plus que vivre puisqu'il s'adonna également à l'écriture. C'est sûr qu'on a plutôt envie d'être sympa envers quelqu'un qui se donne du mal pour écrire. Et même si on n'est pas tout à fait d'accord avec lui, on a bien envie de lever le pouce et de dire « C'est super ce que tu fais !» Mais malheureusement, je ne peux pas dire à Augustin « C'est super ce que tu fais !» Car ça se serait tellement mieux passé pour toutes les femmes ces 15-16 derniers siècles si notre Augustin ne s'était pas acharné à étaler ses idées et ses sentiments sur tout et n'importe quoi.
Quoi ? C'est mieux que de passer mon temps à traîner en ville, non ?
Dans son ouvrage Les Confessions, saint Augustin avoue qu'il a aimé le sexe jusqu'à se trouver plusieurs plans cul pendant toute sa jeunesse. Il écrit
« Donner et recevoir de l'amour, c'était merveilleux. Un corps lascif me procurait une jouissance particulière. »
Soudainement, une idée complètement inédite frappe Augustin. Il trouve que le sexe, c'est dégoûtant et mal. Il écrit
« J'ai souillé l'amitié de mes désirs sales et terni son éclat de mes envies gluantes. »
Pour l'époque, c'est une pensée révolutionnaire, quand on sait qu'à l'Antiquité, l'érotisme et les désirs étaient considérés comme un cadeau des dieux. Et voilà notre Augustin qui se ramène avec une idée à laquelle à peu près personne n'avait jamais pensé. Le sexe n'est pas un cadeau de Dieu, mais une traîtrise envers lui.
Putain, je révolutionne complètement la pensée du IVe siècle.
Mais pourquoi serait-ce une traîtrise? Parce que pour Augustin, nos incontrôlables organes sexuels sont hérités d'Adam et Ève et de leur désobéissance envers Dieu. La preuve, quand Adam et Ève ont croqué dans le fruit défendu et ont été pris sur le fait, ils ont tout d'abord caché leur sexe. Ainsi, pour prouver son amour envers Dieu, Augustin fait vœu de célibat pour le reste de sa vie. Et ça aurait été carrément super si seulement il en était resté là, à s'occuper des trucs de célibataire et à penser à des pensées de célibataire à longueur de journée. Mais Augustin ne s'est pas cantonné à des pensées de célibataire à longueur de journée. Au lieu de ça, il pense énormément au sexe, et aux femmes, et au sexe des femmes. Et voilà ce à quoi il pense. L'héritage du péché d'Adam et d'Ève se transmet d'une génération à l'autre à travers le sexe. C'est simple, tout le monde est pécheur depuis sa naissance. Et c'est surtout la femme qui est pécheresse et sale, car si Adam a consommé le fruit défendu, c'est bien à cause d'Ève. La femme représente donc la tentation de l'impureté. Ainsi, le corps de la femme, et en premier lieu son sexe, devient l'opposé du divin. Par la suite, d'autres auteurs chrétiens font feu du même bois. Parmi eux, Arnob de Sica qui écrit
« Le corps féminin est empesté et dépravé, une outre vile remplie d'excréments et d'urine. »
Mais faisons nos adieux à Augustin et à ses amis. Le suspense est à son comble. Vous trouverez la suite du palmarès dans la bande dessinée « L'origine du monde » de Liv Tronquist, parue en mai 2016 aux éditions Sous le signe noir de Rackham.
Disons que je suis très heureuse d'aborder une vision des femmes inconnues.
Comment réagir lorsque nous sommes confrontés à ces situations, sachant qu'on reste souvent sans voix, comme sidérés?
Nous en parlerons lors de la prochaine émission, en abordant notamment un outil, l'autodéfense féministe.
En attendant, vous pouvez vous rendre sur la page de notre émission La Collective, sur le site de Fréquence 7. On y a compilé quelques ressources qui nous semblent très utiles autour de ces questions.
Merci à Maria d'être venue parler au micro de La Collective, et à très vite.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit « Mais la révolution fera le ménage ».